Europe 1, le 22-22-30, Romain Oquet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de la nuit. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos. Il est 22h. Merci d'avoir choisi Europe 1. 48 heures après l'enlèvement de Mia dans les Vosges, trois hommes interpellés en région parisienne. Il pourrait s'agir de ses ravisseurs. La petite fille, elle, reste introuvable. Où en est l'enquête? Nous ferons le point dès le début du journal. La France qui franchit ce soir le seuil terrible des 100 000 morts du Covid et la vaccination élargie aux professions les plus exposées. Dès ce week-end, des créneaux spécifiques leur seront réservés. Nous serons aussi en Allemagne où les écoliers vont devoir s'auto-tester dès la semaine prochaine. Et vous l'entendrez, c'est loin d'être évident. Chez nous, le gouvernement planche sur le calendrier des réouvertures, tandis qu'en Angleterre, après l'euphorie de la réouverture des pubs, les médecins s'inquiètent d'une nouvelle flambée des cas. Reportage à Londres. Dans ce journal également, deux ans, jour pour jour, après l'incendie de Notre-Dame, nous verrons où en est la reconstruction. Et puis quand un temple du foot se transforme en temple du rock, le Vélodrome à Marseille va accueillir Mick Jagger, enfin presque. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit Marie-Béatrice Leveau, présidente de la Fédération des particuliers employeurs. Ce sera juste après la bourse et vos prévisions météo pour demain. Après une matinée très ensoleillée, les nuages arrivent dans l'après-midi. Les températures sont stationnaires avec toujours des gelées matinales, nous dira Anissa Haddadi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Deux jours après l'enlèvement de Mia, 8 ans, dans les Vosges, les enquêteurs restent sans nouvelles de la petite fille. Et ce, malgré l'arrestation de trois hommes aujourd'hui. Gladys Laffitte, il pourrait s'agir des ravisseurs de Mia.
Oui, trois hommes qui ont donc été arrêtés aujourd'hui en région parisienne. Ils sont actuellement en garde à vue, interrogés par les gendarmes. D'après nos informations, ce sont les trois hommes qui avaient été signalés lors de l'alerte enlèvement diffusée mardi soir. Ils s'étaient présentés comme étant des représentants de la protection de l'enfance au domicile de la grand-mère maternelle de Mia, chez qui elle était hébergée. En revanche, la petite fille de 8 ans est toujours activement recherchée, tout comme sa mère, 28 ans, soupçonnée d'être à l'origine de cet enlèvement. Elle n'avait plus le droit de voir sa fille seule depuis janvier. Mais ces trois interpellations sont donc une première étape et les interrogatoires des trois hommes pourraient être déterminants pour retrouver la petite fille, introuvable donc depuis mardi matin après avoir été enlevée dans les Vosges.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Écoutez le monde changer. Europe Soir, le 22-22-30.
100 000 personnes sont mortes du Covid. Un seuil glaçant franchi ce soir en France, troisième pays le plus endeuillé en Europe après le Royaume-Uni et l'Italie. Désormais, tous les espoirs reposent sur la vaccination. Une campagne qui va d'ailleurs s'accélérer pour les professions les plus exposées au virus. Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran, visitaient cet après-midi un centre de vaccination en région parisienne. Et le Premier ministre a annoncé la création de plages horaires spécifiques pour ces professionnels.
Des créneaux dédiés de vaccination pour ces professionnels âgés de plus de 55 ans seront ouverts dès ce week-end dans plusieurs centres du territoire national. Les personnes concernées pourront se faire vacciner soit en ville ou dans ces centres en AstraZeneca ou en Pfizer et Moderna pour ceux qui en relèvent. Les professeurs des écoles, des collèges et des lycées, les AESH, les ATSEM, les professionnels de la petite enfance, ceux de la protection de l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse. D'autre part, les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes, les surveillants de l'administration pénitentiaire, d'autre part. Ils pourront donc recevoir une première dose de vaccination. Cela représente un peu plus de 400 000 professionnels. Cette mobilisation de créneaux, je vous l'annonce, durera un minima de semaines, y compris les week-ends.
Jean Castex au micro d'Hélène Terzian pour Europe 1. Et si l'on regarde le décompte, près d'un Français sur cinq a déjà reçu une première dose. Anne Le Gall, est-ce que ça veut dire que ce soir, ça y est, on passe à une nouvelle étape ?
Effectivement, avec 12 millions de vaccinés, on a franchi un nouveau seuil. Et hier, on avait aussi dépassé le cap des 400 000 injections quotidiennes. Par ailleurs, en termes de couverture vaccinale, les derniers chiffres indiquent qu'on est à 65% de primo-vaccinés chez les plus de 75 ans. Et dans les EHPAD, c'est encore mieux, indiquait le professeur Alain Fischer, qui était l'invité de Patrick Cohen à la mi-journée.
Vous savez que près de 95% de ces personnes ont été vaccinées, ce qui est vraiment une performance vu la difficulté logistique que cela représentait. Eh bien, on observe que le nombre de décès dus au Covid de ces personnes a drastiquement diminué. Donc, c'est un premier signe très net de l'efficacité de la campagne de vaccination.
Et les personnes les plus fragiles étant protégées, il faut donc maintenant penser à l'élargissement. Au-delà des annonces de Jean Castex, ce qu'on peut dire pour la suite de la campagne, c'est qu'à partir de demain, les 60 ans et plus pourront avoir accès aux 3 vaccins disponibles en France, de l'AstraZeneca en ville et un vaccin à ARN messager en centre de vaccination. Que les 55-60 ans peuvent aussi toujours prendre rendez-vous pour se faire vacciner avec de l'AstraZeneca chez leur médecin ou leur pharmacien. Et enfin, que l'ensemble des plus de 50 ans devraient normalement avoir accès à la vaccination à compter de début mai.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Une campagne qui va donc s'élargir, nous expliquait Anne, grâce notamment à de nouvelles livraisons de vaccins. Les laboratoires Pfizer-BioNTech annoncent aujourd'hui la livraison d'au moins 7 millions de doses supplémentaires d'ici la fin du mois de juin. Vacciner et dépister, ce sont les deux axes de la stratégie sanitaire du gouvernement. À la rentrée, le 26 avril, les autotests seront distribués dans les écoles primaires, puis dans les collèges et les lycées. En Allemagne, la rentrée, c'est lundi prochain. Et là-bas, les élèves devront obligatoirement réaliser 2 autotests. Ce sont les enfants qui devront le faire eux-mêmes en classe. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin et aussi mère de famille. À quelques jours de l'entrée en vigueur de cette mesure, il y a beaucoup de questions et d'inquiétudes chez les enfants comme chez les adultes.
Oui, je vous parle d'expérience puisqu'effectivement j'ai 2 enfants scolarisés à Berlin. Alors cette semaine, on a pu s'entraîner à la maison avec les 2 tests qu'on a reçus. Bilan mitigé, la grande qui a 12 ans maîtrise à peu près le geste, mais le plus jeune qui est en CP ne se sent pas prêt à le faire tout seul lundi en classe.
En fait, moi j'ai 6 ans, mais moi j'ai un petit nez et ça m'a fait très mal. Je trouve ça un peu difficile. Je pense que notre maîtresse, elle va nous aider, mais quand même, je pense qu'on va pas arriver tout seul à ouvrir, ou ça va, un liquide va se reverser. Je pense que c'est une mauvaise idée de faire ça.
Alors évidemment, ce matin, devant la grille de l'école, c'était le sujet de discussion. Les parents redoutent la réaction de leur enfant, s'il est testé positif, la panique dans la classe. Les familles ont l'impression d'être sacrifiées alors que les entreprises ici en Allemagne ne sont toujours pas obligées, elles, de tester leur personnel. Mais après 2 mois et demi à faire l'école à la maison cet hiver, beaucoup de parents sont fatalistes.
Pour les plus jeunes, surtout, ces tests ne sont pas du tout adaptés. Mais on doit y passer. Le principal, c'est que les écoles restent ouvertes.
C'est la règle. Sinon, on est refusé à l'école. Et l'école, c'est ce qu'il y a de plus important.
Les enseignants s'inquiètent, eux, pour la durée d'apprentissage. L'école n'a repris, mais seulement 3 heures par jour. En demi-groupe, c'est très peu. En attendant, on se démène pour trouver des solutions. Dans notre école, la direction va réserver une partie de la cour pour des tests en présence des parents avant le début des classes.
Merci Hélène Kohl, correspondante à Berlin pour Europe 1. L'Allemagne, frappée aussi de plein fouet par la 3e vague. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs adopté cette semaine une loi pour durcir les restrictions sur tout son territoire. En France, la situation sanitaire est tout aussi préoccupante. 5 900 malades en réanimation, seuil inédit depuis la première vague. Emmanuel Macron a réuni cet après-midi une quinzaine de maires en visioconférence autour d'une question. Quand pourra-t-on rouvrir les bars, les restaurants, les cinémas, les commerces ? Pas avant d'avoir soulagé les hôpitaux. C'est ce qu'a répondu le chef de l'État aux élus. Parmi eux, le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard.
Optimiste mais prudent, puisqu'il nous dit que les hospitalisations vont continuer à monter encore une dizaine de jours pour avoir un pic qui se situerait entre le 27 et le 30 avril. Et donc, en fonction de l'évolution ensuite rapide, l'ouverture se tiendra ou pas aux alentours du 15 ou du 20 mai. Il est sur ce trend-là avec, nous dit-il, un projet de plan d'ouverture dans les 10 jours qui sera discuté avec les maires sur les 2-3 semaines qui suivent. Et puis, à partir donc dans une trentaine de jours d'ici, l'ouverture oui, des premiers bars et puis des lieux de culture sur des protocoles que nous aurons 3 semaines, les maires et les préfets, avec l'État pour mettre en place. Ce qu'on a appris, c'est que la stratégie vaccinale, normalement, devrait porter ses fruits pour que, fin de l'été, tout le monde ait la possibilité d'être vacciné.
Luc Bouard, joint par Charles Guyard pour Europe 1. Et ce calendrier de réouverture, c'est justement ce dont il était question ce soir à l'Élysée. Emmanuel Macron s'est entretenu avec une dizaine de ministres. Sauf que l'exemple britannique pourrait bien refroidir les responsables français. Vous avez sûrement vu ces images de ces londoniens qui se sont précipités sur les terrasses des pubs et des restaurants rouverts cette semaine. Ça donnait envie. Nina Guérino de la mairie, vous êtes correspondante d'Europe 1 à Londres. Chez vous, après l'euphorie, les autorités sanitaires tirent le signal d'alarme. Le gouvernement et les scientifiques parlent même de réinstaurer des restrictions dans la capitale pour éviter une remontée des cas de Covid.
Et oui, à Londres, depuis 5 jours, on peut voir des rues bondées de Londoniens assis en terrasse avec peu de distance entre eux. Alors après la joie de retourner boire une bière, c'est désormais l'inquiétude qui règne. Ces foules inquiètent la communauté scientifique, notamment l'infectiologue Anthony Arden.
Je suis vraiment inquiet à cause des scènes que l'on a pu voir à Londres où les gens profitent des terrasses sans que les distances soient respectées. Le danger avec une remontée des cas, c'est que le niveau de transmission augmente aussi. Et avec ce nouveau variant sud-africain, on ne veut vraiment pas que cela devienne majeur dans le pays parce que le vaccin n'est pas très efficace contre lui.
Dans le sud-ouest de la capitale britannique, près de 70 cas de variants sud-africains ont été détectés. Des tests sont effectués en masse dans les 3 quartiers concernés pour contrôler sa propagation. Isabella, 24 ans, qui habite dans le sud-est, fait partie de ceux qui profitent pleinement de la réouverture des pubs. Tout cela n'affole pas vraiment la jeune Polonaise.
Je pense qu'il y a toujours un risque, mais je suis certaine que tout le monde a pris les précautions nécessaires pour assurer qu'on soit tous protégés.
Si les cas continuent d'augmenter, des confinements locaux pourraient être remis en place dans la capitale.
Nina Guérino de la mairie, correspondante d'Europe 1 à Londres.
Europe 1, le 22-22-30, Romain Oquet.
22h11 sur Europe 1. Souvenez-vous, il y a 2 ans, à 7h, ces flammes d'où s'échappe une épaisse fumée noire jusqu'à l'effondrement de la Flèche. Les premiers camions de pompiers arrivent sur place. Il y a 2 ans, jour pour jour, la cathédrale de Notre-Dame brûle. Sous les yeux, ahuris, le regard figé des Parisiens et des touristes. C'est le début d'une nuit interminable. Ce matin, Emmanuel Macron, casque de chantier sur la tête, était sur les toits de l'édifice. On n'est qu'à une étape, a dit le président. On voit tout ce qu'il reste à faire si l'on veut tenir nos objectifs. Justement, Pierre Herbulot, 2 ans après, où en est aujourd'hui le chantier de restauration ?
Alors là, on est à la toute fin de la première phase capitale, celle de la sécurisation de l'édifice. On a craint, hein, dans les jours et les mois qui ont suivi l'incendie, que la cathédrale ne s'effondre. Aujourd'hui, ce risque est écarté. Michel Picot est le président de l'association Friends of Notre-Dame. Il se rend régulièrement sur le chantier et décrit ses 2 premières années de travaux.
Des opérations de soutènement des grands arcs-boutants de la nef de la cathédrale, d'enlèvement de statues qui menaçaient de tomber et qui devaient donc être protégées, l'enlèvement en fait de l'échafaudage calciné de la flèche de la cathédrale.
Reste à consolider la voûte, ça devrait être terminé cet été. Ce n'est qu'après que la phase de reconstruction, de restauration à proprement parler pourra débuter, explique Christophe Rousselot de la Fondation Notre-Dame.
La cathédrale est prête à restaurer la flèche, c'est-à-dire que l'échafaudage va être monté en partant du cœur, en partant du sol, comme Viollet-le-Duc l'avait fait en son temps. Et cet échafaudage va culminer à 96 mètres pour que la flèche puisse être reconstruite avant que la toiture et la charpente ne le soient.
Et ça passe par des appels d'offres obligatoires. Il y en a pour plusieurs mois sur un chantier pareil. Pour autant, le timing est pour l'instant respecté. Une première messe devrait pouvoir se dérouler à Notre-Dame dans 3 ans. Et puis côté finance aussi, on est bon. 165 millions d'euros utilisés sur les quelques 830 millions de dons venus de toute la France.
Les précisions de Pierre Herbulot. Une étape historique, a souligné le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Le Parlement a adopté aujourd'hui une loi contre les violences sexuelles sur les mineurs. Un texte qui fixe le seuil de consentement à 15 ans et 18 ans en cas d'inceste. Dans l'actualité également, le verdict au procès du chauffard qui avait foncé sur une pizzeria en région parisienne en août 2017. L'homme a été condamné à la réclusion à perpétuité. Il avait tué une jeune fille de 13 ans et blessé une dizaine de personnes. C'est un temple du foot, le stade de Vélodrome à Marseille, qui s'apprête à accueillir une exposition qui n'a pourtant aucun rapport avec le ballon rond, mais qui ravira les amateurs de rock, Angèle Châtelier, et surtout les fans des Rolling Stones.
Oui, parce qu'à partir du 5 juin, le stade Vélodrome à Marseille accueillera une exposition dédiée au mythique groupe de rock. Yeah, mètres carrés d'espace avec des instruments, des affiches de tournée, des costumes, des vidéos de live. L'un de leurs appartements de Londres, assez vétuste, où ils ont appris les rudiments du blues, a même été reconstitué comme des studios d'enregistrement. Cette exposition a déjà été un événement à Londres en 2016, mais on nous promet que celle en France a été repensée, sera différente. Et rien que pour ça, Mick Jagger lui-même a laissé un petit message à ses fans français lors d'une conférence de presse.
The Rolling Stones unzipped à l'Orange Vélodrome. Vous allez adorer. I see a red door
and I want it painted black. La billetterie pour aller à cette exposition est maintenant ouverte. Comptez 25 euros par adulte pour s'offrir de quoi célébrer comme il se doit les 60 ans de carrière de l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps.
Merci infiniment Angèle Châtelier. On termine ce journal avec les sports. Sur les cours du tournoi de Monte-Carlo, Rafael Nadal n'a fait qu'une bouchée de Grigor Dimitrov. On pouvait s'y attendre. Immense surprise. En revanche, pour Novak Djokovic, le numéro 1 mondial a été éliminé en 8e de finale par Daniel Evans. Une performance jugée déplorable par le Serbe lui-même. Avant de se quitter, un petit tour par les stades de la Ligue Europa et Arsenal qui mène 3-0 face au Slavia Prague. L'Ajax, pour l'instant, s'impose 1-0 face à la Roma, Villarreal, Dynamo Zagreb 2-0 et un but pour Manchester United qui affronte ce soir le club de Grenade. Il est 22h15 et tout de suite la météo avec vous Anissa Haddadi et il faut s'attendre à un vendredi plutôt mitigé.
Alors, dès le début de la journée, Romane, nous avons un soleil franc, généreux, bien présent sur la plupart des régions. En fait, c'est dans le nord-est, hein, des Ardennes jusqu'à l'Alsace, en passant par la Champagne, que le ciel est un petit peu plus nuageux. Et puis, dans l'après-midi, les nuages vont bourgeonner. Ils seront de plus en plus nombreux sur la moitié nord. Déjà, le ciel va se couvrir. Et puis, dans le quart nord-est, avec entre la Bourgogne et le centre, des averses un petit peu plus présentes. Dans le sud, sur le Lyonnais, le Massif central et la Provence, là, les averses se développe, le temps est beaucoup plus instable. Et puis sur la moitié nord, toujours cette bise qui souffle et reste sensible et va rafraîchir l'atmosphère. Alors les températures, elles sont stationnaires. Nous aurons toujours des gelées matinales. Hein. Demain, dans l'intérieur des terres, avec moins 5 degrés à Montluçon, moins 4 pour Aurillac, moins 3 à Saint-Étienne, moins 1 à Rennes et Rouen, 0 degrés à Belfort, 2 à Paris et Lyon et 8 degrés pour Bastia le matin et puis dans l'après-midi, ça reste stationnaire, des températures qui ressemblent à celles de ces derniers jours avec 8 degrés à Saint-Étienne, 10 à Colmar, 12 à Paris et Lille, 15 degrés pour Toulouse et Bordeaux et 17 à Perpignan.
Des prévisions signées Anissa Haddadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Roman Hockey.
Et à 22h18, on fait le point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Roman.
Wall Street s'envole ce soir et bat de nouveaux records. Les marchés sont dopés par de bonnes nouvelles pour l'économie et les bonnes performances des entreprises.
Oui, le S&P 500 n'a jamais été aussi haut. C'est un nouveau record aussi pour le Dow Jones, plus 0,9%, 34 036 points. Pas de record pour le Nasdaq, mais on est tout proche à 14 038 points. Wall Street est donc au sommet, toujours grâce aux signes de reprise économique, notamment une forte baisse du chômage. Et puis on a aussi de très bons résultats financiers pour Citigroup et pour Bank of America, même si les titres des deux banques sont en baisse. C'est du solide aussi pour BlackRock, le numéro un mondial de la gestion d'actifs. BlackRock bondit de plus de 2%. Et puis les grandes technos sont encore le principal moteur de la hausse du jour. Apple gagne 1,8%, Amazon et Microsoft plus 1,4% et Facebook plus 1,6%.
Alors le CAC 40 garde le cap et s'installe au-dessus du seuil des 6200 points et la vedette du jour c'est Publicis.
Voilà, on reste au plus haut depuis plus de 20 ans avec une petite hausse de 0,41%, 6234 points. Après LVMH hier, c'est le bon début d'année de Publicis qui est salué par les investisseurs. numéro 3 mondial de la communication, a renoué avec la croissance au premier trimestre, et cela avec 3 mois d'avance. Le titre Publicis en profite et bondit de 3,3% ce soir.
En revanche, Claire, la séance a été plus compliquée pour Pierre et Vacances Center Parcs.
Oui, le groupe de tourisme a sans surprise annoncé un chiffre d'affaires lourdement impacté par la poursuite de la crise sanitaire. L'action recule de 2%. Et puis on suivra Casino demain. Le distributeur et son concurrent Intermarché ont annoncé après la clôture des marchés un partenariat pour une durée de 5 ans. Partenariat dans les achats de produits de grandes marques et dans le digital. Clôture dans le désordre ce soir en Europe. Londres gagne 0,6% et Francfort plus 0,3%. Mais Milan et Madrid sont dans le rouge, repli de 0,2%. Et puis le CAC 40 monte, lui, de 0,4% à 6234 points.
Merci pour ce tour d'horizon complet, Claire Lemaître de Boursier.com. 22h20 sur Europe 1, l'heure de l'interview écho avec vous, Emmanuel Duteil. Ce soir, on va parler des crédits d'impôt et avec vous, Emmanuel, Marie-Béatrice Levaux, présidente de la Fédération des particuliers employeurs. Bonsoir à vous.
Bonsoir Marie-Béatrice Levaux.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la présidente de la FEPEM. C'est quoi la FEPEM ? Eh bien, c'est la Fédération des particuliers employeurs. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que pour les particuliers employeurs, il y a une bonne nouvelle. Pour le moment, quand on embauche une nounou, quand on embauche un jardinier ou autre, eh bien, jusque-là, quand on commence, les crédits d'impôt étaient versés seulement l'année qui suivait, avec donc une année de retard, ce qui pouvait freiner pour certains l'emploi d'une nounou ou autre. Eh bien, tout ça, ça va changer. À partir de 2022, ce sera en temps réel une excellente nouvelle, j'imagine, Marie-Béatrice Levaux, pour vous et vos adhérents.
Ah ben écoutez, c'est un projet que nous portons depuis le début de la mandature et on ne peut qu'être satisfait parce que ça va permettre à énormément de personnes qui peut-être n'employaient pas aujourd'hui parce qu'il fallait faire cette avance de trésorerie sur le crédit d'impôt. On va sûrement revenir sur ce que ça veut dire, hein, c'est quand même important. C'est près de 50% du coût qui va être pris en charge directement par l'État à partir du 1er janvier 2022. Et donc, oui, ça va ouvrir le nombre encore important actuel, hein. On a 3,5 millions de particuliers employeurs et près d'1,4 million salariés dans le secteur. C'est un Français sur 4 hein, qui est concerné aujourd'hui. Et donc, vous imaginez qu'au 1er janvier 2022, nous avions jusqu'à maintenant déjà obtenu un acompte de 60% du crédit d'impôt qui est versé autour de la mi-janvier. Là, on franchit une étape supplémentaire et très importante, c'est que tous les mois, le particulier employeur ne payera que son reste à charge.
Vous estimez un peu le nombre d'emplois que ça pourrait permettre de créer, Marie-Béatrice Levaux ?
C'est toujours très difficile d'estimer le nombre d'emplois créés par un événement comme celui-là. Je voudrais juste dire quels sont finalement les précédents. On a eu, évidemment, comme tout le monde, une année 2020 très complexe avec, je dirais, la crise sanitaire. Et nous nous sommes rendus compte dès le mois d'octobre 2020 que les comportements des particuliers employeurs avaient retrouvé, je dirais, la situation précédente. C'est-à-dire que même on a une légère augmentation au troisième trimestre 2020 par rapport à 2019, après, évidemment, le confinement de mars. Et donc, on voit bien que l'emploi à domicile chez les Français aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, c'est devenu un élément central. Et donc, je pense que il n'y a pas de question de revenus dans cette histoire. Il y a des besoins à domicile qui sont évidemment...
Mais il peut quand même y avoir des questions parfois de revenus parce que des gens se disent « Non, je vais trouver une autre solution parce que je ne suis pas capable d'absorber cette dépense. »
Quel que soit le fait que vous payez de l'impôt ou que vous n'en payez pas, le crédit d'impôt pour employés à domicile est ouvert à tous les particuliers employeurs qui déclarent au CESU et à PAJE, prestation d'accueil du jeune enfant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est cette avance de trésorerie du crédit d'impôt. Je rappelle que le crédit d'impôt, il prend en charge 50% des sommes que vous payez en matière de salaire et de cotisation. Si je prends l'exemple très simple, aujourd'hui, la moyenne horaire net, c'est-à-dire quand vous recrutez quelqu'un à domicile, c'est 10 euros net de l'heure. C'est une moyenne nationale, c'est plus élevé dans certains territoires, je ne rentre pas dans les détails. Vous avez globalement 8 euros de charges, de cotisation à payer. Ça fait donc un coût de l'emploi moyen de 18 euros. Nous avons un allègement de charges qui n'est pas identique aux allègements des entreprises, mais qui néanmoins est important, qui est de 2 euros et qui est déjà directement établi lorsque vous déclarez. C'est-à-dire que ça vous fait tout de suite un coût de l'emploi de 16 euros.
Bien sûr, mais là, ça va quand même tout changer.
demain, ça va vous faire un coût de l'emploi en reste à charge de 8 euros. Vous ne sortirez plus de votre, je dirais, budget familial les 8 euros que le gouvernement, l'État, vous rembourse dans le crédit d'impôt. Donc, c'est très important.
À la fois
pour stabiliser la déclaration, c'est-à-dire qu'on est encore moins de travail au noir, parce que vraiment, ne pas déclarer son salarié, ça coûte maintenant beaucoup plus cher que de le déclarer. Et là, cette fois-ci, on le prouve à 100%. Et donc, c'est évidemment un élément très moteur pour donner envie à ceux qui hésitaient encore d'y venir, et peut-être aussi pour ceux qui réduisaient leur nombre d'heures au regard de leur budget familial.
Oui, là, c'est un bon signal. En tout cas, ça peut même permettre d'adapter peut-être encore plus facilement, puisque tout cela sera en temps réel. Ce qui est très intéressant aussi dans ce que vous disiez à l'instant, Béatrice Leveau, c'est que vous nous dites que l'emploi des personnes employées par les particuliers employeurs est revenu quasiment à la normale.
Absolument, et ça, je veux le signaler. Nous avons fait 3 études Ipsos au fur et à mesure du temps, et nous nous sommes rendus compte de plusieurs choses. Un, le comportement vertueux des particuliers. Je pense que la plupart des particuliers employeurs ont maintenu l'activité, et très rapidement, ils ont repris leur comportement habituel vis-à-vis de leurs salariés. Nous avons également constaté...
Est-ce qu'il y a une surreprésentation des gardes d'enfants aujourd'hui, avec les écoles, les crèches fermées ?
Aujourd'hui, les assistants maternels, ça a été un petit peu polémique la semaine dernière, sont, je dirais, en capacité d'accueillir les enfants. Ça rentre dans le choix, le libre choix entre l'assistant maternel et le parent. Donc, on a 1 million de parents employeurs aujourd'hui en France. Nous avons à peu près 1 200 000 personnes âgées de plus de 70 ans et au milieu, à peu près 1 million de jeunes actifs de ménage qui ont besoin de ces fameuses heures d'activité ménagère extrêmement sensibles pour nous les femmes. Donc on voit bien que c'est 3/3 de la population d'employeurs en France qui est concernée par cette modalité importante, c'est-à-dire après avoir réussi le prélèvement à la source, nous sommes en train de réussir avec les pouvoirs publics et l'État la dernière prestation qui nous manquait en termes de simplification et de trésorerie, qui est le crédit d'impôt immédiat, le fait que nous rendions contemporain le crédit d'impôt tous les mois et qu'on ne laisse à charge que ce qui reste à charge du particulier employeur.
Eh bien, on a très bien compris. Un grand merci à vous, Marie-Béatrice Leveau. Je rappelle que vous êtes la présidente de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. Un grand merci d'avoir été notre invitée ce soir. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil et à demain, 13h-14h pour La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Émission spéciale en direct de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulon. Vous allez vous intéresser à toutes ces entreprises qui s'activent pour la transition écologique et vous recevrez entre autres le patron de Corsica Ferries. À demain Emmanuel. 22h27, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. Et tout de suite, la une de vos quotidiens demain matin avec d'abord Les Échos qui s'intéressent évidemment à ce fameux calendrier de réouverture, commerce, terrasse, musée. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, en dit plus justement sur ce calendrier de déconfinement dans Les Échos où les commerces seront soumis a priori au même agenda que les terrasses pour une réouverture à la mi-mai. L'Humanité, en revanche, est plus inquiète, s'intéresse justement à ces variants qui inquiètent, nous dit le journal. On pense notamment à la situation au Brésil et juste à côté en Guyane, où les voyageurs sont désormais soumis à des tests PCR. Des souches mutantes soupçonnées d'être plus résistantes aux vaccins font planer la crainte d'une reprise épidémique, nous dit le quotidien. À la une de La Croix, la loi climat, un vrai tournant, c'est une question posée par le quotidien. Le projet de loi climat et résilience, dont l'examen s'achève en première lecture à l'Assemblée nationale, ce sera l'un des marqueurs du quinquennat, nous dit La Croix, avec des avancées, c'est certain, mais aussi des déceptions. Et justement, les énergies alternatives, c'est aussi ce qui intéressera demain Ouest-France, avec ce titre, la flambée du chauffage vert. Le quotidien nous explique que ces sources d'énergie alternatives, comme les pompes à chaleur, les poêles à granulés, se vendent exactement comme des petits pains. Et sur un tout autre sujet, à 13 mois de la présidentielle, cette une du journal Libération. Et ce titre, bien évidemment, les galériens de l'Union, Libération qui s'intéresse à un possible ou peut-être à une impossible union de la gauche, du PS à la France insoumise. Les leaders se retrouvent samedi autour de Yannick Jadot pour jeter les bases d'un rassemblement présidentiel. Mais, nous dit le quotidien, les arrière-pensées de chacun rendent pour l'heure le projet très, très incertain. Merci pour l'heure. Il est 22h, tout juste 30 minutes sur Europe 1. Vous avez rendez-vous avec la Libre Antenne et Olivier Delacroix qui s'installe. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Romane. Quelle ponctualité, je me disais, à 22h30. Pétante.
Exactement. Je vous laisse la place et vous connaissez le numéro, chers auditeurs, 39-21. On est avec vous jusqu'à 1h du matin.
Très bien Romane. Et vous, on vous retrouve très vite puisqu'à 23h, nous serons avec Exactement. Vous pour votre flash. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.